Donc, c'est un temps d'atelier. On est nombreux. Merci de votre présence. Vous avez peut-être des questions par rapport à l'enseignement de ce matin ou des questions sur l'Église. La question, c'est qui nous fera voir le bonheur. Je reprends un petit peu le plan de ce matin et puis je voulais parler de la joie. C'est un enseignement que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est fondamental sur le bonheur. Et le thème, c'est qui nous fera voir le bonheur. Maintenant, si vous avez des questions sur d'autres sujets, vous n'hésitez pas un instant à les poser. Vous savez que j'aime beaucoup ça. C'est le style de mes émissions de radio, de mes interventions. J'aime bien répondre du tac au tac et poser des questions difficiles. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, ce matin, donc, l'idée, c'est de voir comment le monde, c'est pas tellement un propos de comptoir que j'ai voulu tenir en disant, ouais, ça va pas bien ou c'était mieux avant. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui se révèle, hein, le mystère d'iniquité. Vous savez, c'est aussi une parabole du semeur. On a entendu la parabole du semeur dimanche, mais il y a une autre parabole où l'homme qui sème du bon grain, et à un moment donné, pendant la nuit, l'ennemi sème de l'ivraie. Donc l'ivraie ne vient pas par hasard. C'est bien, il y a un mystère. Il y a quelqu'un derrière ce mystère. Il y a quelqu'un derrière ce mystère de l'ivraie. Il y a quelqu'un derrière ce mystère de l'ivraie. Il y a quelqu'un qui a semé. C'est pas le hasard, vous voyez. Le mal, c'est l'absence du bien, comme la ténèbre, c'est l'absence de lumière. Mais il y a une volonté. Il y a une volonté, il y a une volonté et qui apparaît de plus en plus dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, qui pourrait nous désespérer, nous désoler, et puis qui, en même temps, peut aussi nous faire prendre conscience que s'il y a un plan du diable, mais il y a aussi un plan de Dieu. C'est souvent ce que je dis à des adolescents un peu difficiles, qui doivent maîtriser leur passion, leur pulsion. Je dis, tu sais, il y a un plan du diable sur ta vie, mais il y a aussi un plan de Dieu. S'il y a un plan du diable, c'est parce qu'il y a un plan de Dieu. Et donc, tu vas choisir la libre initiative et la libre réponse. Bon. Donc, le plan de ce matin, c'était quand même d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi ce monde est un monde difficile, et non pas de le juger. C'est pas notre rôle, c'est pas notre truc. On n'est pas plus chrétien lorsqu'on dit du mal de ceux qui ne sont pas chrétiens ou de ceux qui vivent dans le péché ou dans le mal, etc. Parfois, certains chrétiens se trouvent davantage chrétiens en critiquant. Et donc, on n'est pas plus chrétien lorsqu'on dit du mal de ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous avez un beau-frère, une belle-sœur qui ceci, ou un voisin qui pratique de la sorcellerie, j'en sais rien. On n'est pas plus chrétien en disant du mal en maudissant. La parole de Dieu dit bénissez, ne maudissez pas. On est plus chrétien, par contre, c'est vraiment un acte surnaturel que de rechercher le bien dans cette personne. Non pas en niant ce qu'il y a de mal, d'ailleurs, c'est valable aussi pour nous-mêmes, petite parenthèse, parce qu'on a beaucoup tendance à se maudire soi-même. Entre la conférence, la messe et aujourd'hui, à cet instant, j'ai fait une émission à la radio sur le grand âge et la sainteté. Et on a parlé avec la journaliste de l'amertume qui arrive parfois avec le grand âge, la solitude, les difficultés physiques, l'éloignement des proches, etc., ou les regrets, voilà. Et en fait, il faut pas maudire. Enfin, j'aime pas dire il faut pas, mais un chrétien se doit de chercher la lumière plus que de fuir les ténèbres. Quand on commence à mettre la chose qui nous gêne dans notre vie, notre péché, notre addiction, le truc ou la personne qui est au centre de notre vie, soi-disant pour chasser cette personne, eh bien, en fait, on finit par succomber au mal. Et par tomber dans le malheur. Je confessais à une dame une fois qui avait beaucoup de problèmes avec sa belle-fille. Sa belle-fille était un peu dure avec elle, et elle éloignait son fils, et elle éloignait les petits-enfants, et patiti, et patata. Donc elle avait beaucoup de ressentiments, certainement justifiés, j'en sais rien, envers sa belle-fille. Et je lui dis, mais tiens, je vais prier. Pendant la confession, je lui dis, c'est pas une confession, c'est un entretien. Je lui dis, je vais prier pour que ta belle-fille devienne comme ta fille. Elle me fait non. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu veux l'humilier? Tu veux qu'elle rampe devant toi? Tu veux que la mère de tes petits-enfants, la femme de ton fils devienne, qu'est-ce que tu veux? Que tu veux croire, en fait? Tu veux qu'elle devienne une ennemie sur qui tu as remporté une victoire? C'est ça ton but, en fait. Et là, voilà, je crois qu'elle a compris. La meilleure façon de se débarrasser d'un ennemi, c'est d'en faire un ami. La meilleure façon de se débarrasser d'un péché, c'est pas de lutter contre ce péché, etc. C'est d'augmenter la lumière dans nos vies. Rappelez-vous, dans la parabole de l'ivraie, qu'est-ce qu'il fait le maître? Les serviteurs disent, Maître, il y a de l'ivraie dans le champ. On va l'arracher. Voilà, le maître dit non. C'est bizarre. Si l'un d'entre vous me dit, voilà, j'ai un problème d'addiction, j'ai ceci, etc., on va essayer, on va arracher ça. C'est peut-être pas ce que le Seigneur te demande d'abord. Il te demande peut-être d'être beaucoup plus souriante, par exemple, envers tes voisins ou ton mari, ou d'être plus serviable envers ta femme, d'être plus présent envers tes enfants. Oh, mais moi, mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que, je sais pas, moi, j'ai tendance à voler de l'argent au travail. Enfin, je dis une bêtise, hein, bon. Dis oui, mais c'est le Seigneur te demande, commence par rajouter de la lumière dans ta vie, on rajoute du bon grain. On laisse pousser la moisson, on laisse pousser le champ, et à la moisson, on verra. Les deux vont s'éliminer naturellement. Comme si la présence du bon grain va comme étouffer. Voyez, voilà. Donc la question qui nous fera voir le bonheur, c'est précisément, ben déjà, il faut qu'on ne soit pas aveugle. Alors cet enseignement sur la joie, c'est que très très rapidement, c'est un enseignement que j'appelle les sept joies, que je dis assez souvent, mais je l'ai même écrit quelque part dans un livre. J'aimerais vous le refaire cet après-midi, puis après on va passer aux questions. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la joie? La première joie du monde, c'est la joie d'avoir. J'ai des caramels. Ça s'appelle le plaisir, la jouissance, on peut dire, la jouissance, hein. Je ne suis pas encore en train de jouir de ces caramels. Tout à l'heure, dans le train, je vais, à mon avis, bon, le train, c'est lourd de Paris. À mon avis, arrivé à Bordeaux, il n'y en aura plus tellement. Hein? Bon. Une fois, j'étais à Grand-Rivière, dans une commune de la Martinique, où ils font la spécialité, c'est des marinades, des beignets de titiri. C'est des tout petits poissons, etc. C'est délicieux. Et pendant 3 jours, j'ai résisté à tous les, vous savez, en visite pastorale, Monseigneur en a préparé. Non, non, merci. Non, j'avais retrouvé mon non, merci. J'étais fier de moi. Et donc, je dis au revoir à tout le monde. C'est la fin, c'est dimanche après-midi. Je m'en vais. J'avais résisté à tous ces plats. Je fais ma manœuvre pour partir. Au moment où je pars, il y a une petite dame qui arrive. Toum, toum, toum. Monseigneur, Monseigneur, tiens, c'est pour toi. Et elle me met un saladier comme ça, de titiri, de marinade de titiri, croustillante, chaude. Sur le plat, et moi, comme un idiot, je démarre, je m'en vais. Il y a 1h30 de route jusqu'à Fort-de-France, à travers la forêt et tout. Et je pars et je dis, ah non, 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 non. Bon, à un moment donné, il y a un feu, parce que la route est très étroite, donc c'est un feu en pleine campagne, mais il y a un feu. Et bon, je m'arrête au feu et là, moi, je dis, bon, je vais en goûter une. Mais bon, voilà. Vous voyez déjà ce qui s'est passé. Donc, la jouissance. Deuxième joie, donc la joie d'avoir. Deuxième joie, la joie d'avoir obtenu. Imaginons que au lieu qu'on me donne ces caramels, on me fait faire une course et je gagne. Je fais une course avec le père Michel et je gagne la course et je gagne des caramels. Donc c'est pas simplement la joie d'avoir, c'est la joie d'avoir gagné, d'avoir obtenu par mes efforts. C'est une joie supplémentaire. Donc on va appeler ça la satisfaction. Je suis satisfait de moi-même. C'est pas simplement la jouissance, c'est la satisfaction. Mais il y a une troisième joie. Si j'ai obtenu, c'est que j'ai été meilleur, je suis bon. Donc je me regarde moi-même, et en dehors du fait d'avoir obtenu, d'être satisfait de mes caramels, moi-même je me regarde et je m'aime moi-même, et je suis content. C'est le contentement. Donc c'est la joie d'être. La joie, donc on se contemple soi-même, lorsqu'on reçoit des félicitations, on peut dire aussi la félicité, je suis content de moi-même, le contentement, voilà. Et on passe à une quatrième joie, je suis, mais en plus, si je suis aimé des autres. Et là, on augmente en qualité de joie, parce qu'on est passé de la jouissance, c'est moi et mes bonbons. La satisfaction, c'est moi et moi-même parce que j'ai gagné. Le contentement, c'est moi parce que je suis bon. Mais on va passer à une autre joie, une joie plus grande, qui est la joie d'être aimé. Et la joie d'avoir obtenu, la joie d'être. Et quatrièmement, la joie d'être aimé. Et notez que pour la joie d'être aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime. Ça s'appelle la réjouissance. C'est très important pour nous chrétiens. C'est le début de la foi, la réjouissance. Réjouis-toi, fille de Sion. Pourquoi ? Parce que ton Dieu vient vers toi. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Donc, il t'aime. Tu n'as plus à craindre le malheur, tu es aimé. J'espère que beaucoup d'entre vous avez fait l'expérience d'être aimé. D'être aimé par quelqu'un qui vous aime, votre amoureux, votre Valentin, votre Valentine, d'être aimé par votre mari, votre femme, c'est encore plus parfait, d'être aimé par vos enfants, par vos petits-enfants, par vos voisins, par vos amis, d'être aimé tout simplement. Et vous voyez, c'est une joie qui est encore plus grande. C'est pas une joie, moi, mes caramels, c'est moi tout seul finalement, je m'aime moi. Le contentement aussi, je m'aime moi. Mais la joie d'être aimé, je m'aime dans le regard de quelqu'un qui m'aime. Et ça, ça me fait grandir profondément. Qui me fera voir cette joie-là, cette réjouissance ? Et là, on passe à une autre joie, la cinquième, il y en a sept. La cinquième joie, et vous l'avez tous connue aussi, je suis un pour vous, c'est la joie d'aimer. Et là, vous passez de l'autre côté de la barrière. C'est plus vous qui éprouvez quelque chose, la joie d'être aimé, c'est vous qui allez donner le bonheur à l'autre. Donc c'est vraiment un miroir, un aller-retour. La joie d'aimer quelqu'un. J'aime mes petits-enfants, mon époux, mes amis, je les aime. J'aime quelqu'un, j'ai de l'affection pour cette personne et j'ai cette joie d'aimer. Ça fait vivre et vibrer mon cœur. C'est la joie que Dieu éprouve. La joie de nous aimer, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Alors c'est précisément cette joie qu'on peut déjà appeler le bonheur. La joie d'aimer. D'aimer comme Dieu aime. Pas d'aimer, de prendre. Moi, j'aime les caramels, mais ce n'est pas de cette joie-là dont je parle. J'aime bien l'expression des jeunes, je kiffe. Je kiffe les caramels, mais je ne les aime pas. Je les aime tellement que je vais les faire disparaître, donc je ne les aime pas. Oui. Bon, si quelqu'un était, il me répondrait, vous pourriez les aimer tellement, mon frère, que vous les partageriez. Il n'y en a pas assez, dommage. La joie d'aimer. Par exemple, je rencontre une de mes filleules et que je dis, bah, tiens, je t'offre des caramels. La joie d'aimer. Comme la joie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit Jésus, phrase qui est dans les Actes des Apôtres. C'est cette joie-là. Et c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Et aimer, c'est tout donner. Donc, il y a la joie de tout donner. De finir, là, c'est la joie des religieux, par exemple, mais aussi des époux, j'espère, qui donnent tout pour l'époux. Mais si on donne tout pour son époux ou pour son épouse, ce n'est pas par une obligation, c'est parce qu'on a tellement confiance, on a tellement de bonheur à donner, qu'on donne tout, qu'il ne reste plus rien, on a tout donné pour l'autre. Le religieux, la religieuse, le consacré, quelqu'un qui justement, le fameux vœu de pauvreté, c'est cette joie-là de plus rien, de tout donner. Donner le maximum. Alors parfois, on fait un chèque en blanc, puis avant que l'autre ne tire le chèque, on passe à la carte bleue au guichet pour récupérer l'argent. On récupère une partie pour soi, quand même. On fait un chèque en blanc, mais on ne sait jamais. Bon, ça, on est des êtres humains. Mais enfin, il y a quand même cette joie profonde, ce bonheur, et puis il y a cette jubilation immense de ne plus rien avoir. Mais ça, c'est au ciel, ça s'appelle la béatitude. Ou c'est la joie qu'éprouvent les saints, et les saints et les saintes de Dieu, Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, la joie de ne plus rien avoir. On essaie de goûter à cette joie-là quand on est religieux consacré, quand on est amoureux profondément, quand on aime la joie de ne plus rien avoir pour soi. C'est-à-dire d'être complètement dépendant de l'autre. Et là, il y a une grande joie, surtout quand l'autre, c'est celui qui a tout donné pour moi sur la croix. C'est le principe même de la vie consacrée, de la vie baptismale. Et qu'on essaie d'imiter aussi dans le mariage. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elles. C'est exactement ça le sens du mariage, où femmes, soyez soumises à vos maris. Hein. Comme dirait ma mère dès qu'elle entend cette phrase, quoi ? Mais justement, c'est ça, c'est cette soumission totale. Et puis juste après, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Donc c'est ce don total de soi. Bon, c'est ce qu'on essaie d'imiter dans le mariage. On n'y arrive pas, dans la vie religieuse non plus, rassurez-vous, on n'y arrive pas. Ce sera qu'au ciel qu'on aura cette joie-là. Voilà. Donc, qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera voir ce bonheur-là ? Vous voyez, c'est une piste que j'aimerais vous donner. Maintenant, je vous laisse une minute chrono pour réfléchir à des questions. Et vous levez la main et je vous donne la parole. Oui, première question. Tu as éprouvé un moment, un bonheur. qui vient de l'autre monde. Et tu rappelles ce que Marie a dit justement à Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Justement, elle n'a pas dit quand vous serez dans l'autre monde. Et quand je commente cette phrase, je dis souvent justement, Marie n'a pas dit quand vous serez dans l'autre monde, mais le bonheur que je vous donnerai, c'est celui de l'autre monde. Et donc, tu témoignes que tu as vécu à un moment donné ce bonheur, comme j'en ai témoigné aussi ce matin un petit peu en racontant l'histoire de cette fille qui avait tout pour être triste, enfin profondément blessée par l'existence, etc., et qui éprouvait un bonheur dont elle ne voyait pas du tout l'origine humainement, quelque chose qui envahit le cœur et qui est une sorte de joie surnaturelle. Il y a la joie naturelle dont j'ai parlé, que j'ai appelée l'eutrapélie, cette petite joie de savoir rigoler, des caramels, etc. Bon, des choses très, très simples. Et qui est vraiment, aujourd'hui, d'autant plus l'apanage des chrétiens. Nous, on a la chance, on n'est pas les seuls, mais on peut vivre cela, alors que le monde s'est un petit peu fait avoir par des joies compliquées. Hein, le camion de pompiers qui doit faire toutes sortes de lumières pour égayer un enfant, alors qu'avant, c'était une planche avec quatre roues, voilà, et encore, trois suffisaient. Bon. Et donc, comment éprouver à nouveau ce bonheur ? Alors, quand il y a des grâces mystiques, parce que ça relève, c'est une petite grâce mystique, mais c'est une grâce mystique. C'est-à-dire, c'est le moment où le ciel vient toucher la terre, où l'Esprit de Dieu vient me donner une expérience quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante. Il y a quelque chose en moi qui bouge, je chante comme David. Bon, il y a quelque chose en moi qui vibre. Hein, je ressens ce bonheur où je traverse une période de tristesse où je devrais être dans l'épreuve et l'épreuve demeure, comme j'ai donné ce témoignage aussi d'une de mes amies qui a toutes sortes d'épreuves avec ses enfants et soudain qui ressent un bonheur, qui fait une expérience mystique à Lourdes au cours d'une assemblée de prière et qui revient en disant voilà, moi je suis dans la paix maintenant. Je suis toujours inquiet, mais je suis dans la paix. Par contre, l'expérience mystique n'est pas le mode, c'est un mode. On va dire habituel, au sens, avec des gros guillemets. C'est-à-dire, c'est pas un mode qu'il faut rejeter, mais c'est pas le mode normal de la vie chrétienne. C'est pas permanent. Quand un voyant, une voyante voit la Vierge, l'un des éléments pour l'Église de discernement, c'est lorsque la personne arrive à revenir sur terre. C'est-à-dire à ne pas vivre une vie chrétienne uniquement parce qu'il y a un ange qui lui apparaît. Parce qu'habituellement, c'est pas comme ça que Dieu a prévu. L'Église, les sacrements, l'Eucharistie, où on voit quand même le corps du Christ. On a chanté la Dorothée, c'était très très beau. Merci aux sœurs, aux frères et sœurs pour ce très beau chant qu'on a chanté après l'Eucharistie, là, après la communion. La vue, le goût se trompent. La seule chose qui ne nous trompe pas, c'est l'ouïe, parce que la foi de l'Église nous dit « Voici, ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Donc, on voit le corps du Christ, etc. Mais il nous faut apprendre aussi, donc parfois dans nos vies, et c'est pas rare, et ça arrive normalement à peu près tout le monde, nous faisons l'expérience d'une joie que je vais appeler mystique, c'est-à-dire une sorte de contact direct entre Dieu et nous, mais c'est pas le plan permanent de l'œuvre de Dieu en nous. Et donc, on vit avec le souvenir. Israël doit se souvenir, c'est pour ça qu'il fait mémoire, souviens-toi, de la Pâque du Seigneur. On se souvient de la Pâque du Seigneur. Souviens-toi, Dieu est passé dans ta vie, quand je dis bien passé, c'est qu'il est présent et qu'il est futur. Mais s'il est passé, tu as fait l'expérience de cela, il te donne de vivre de cette expérience, parce que cette expérience a marqué ta mémoire. Donc c'est la fameuse eau dont Jésus parle, de cette eau, tu n'auras plus jamais soif, parce qu'une fois que tu as fait cette expérience, une fois, personne ne peut te l'enlever. Mais par contre, tu ne vas pas vivre en permanence sur le régime de cette joie. Même si on a bien envie, hein. C'est la petite pilule blanche aussi. Hein. On y va bien. Moi. Ça m'est arrivé des fois où Dieu m'a parlé dans ma vie. Il m'a parlé très clairement. Ça avait deux, trois fois. Et certains moments, j'ai besoin de discerner et je dis, Seigneur, j'aimerais bien que tu me parles. Non, c'est qu'il l'a déjà fait par plusieurs façons. Il l'a fait autrement. Il l'a fait parce que mon discernement est aussi, ou bien le dialogue avec un frère, une sœur, etc. Il a déjà parlé autrement, plus naturellement, entre guillemets, et je n'ai pas besoin à ce moment-là de la grâce surnaturelle. Mais, on aimerait aussi que nos enfants fassent cette grâce. Il y a beaucoup de musulmans qui sont convertis dans notre pays, qui donnent ce témoignage d'une apparition de la Vierge, d'une apparition du Christ qui vient leur parler dans leur chambre, etc. C'est impressionnant, on est un petit peu jaloux. Une fois, j'ai dit au Seigneur, mais je vais passer à l'islam pendant 2 jours, juste pour que tu puisses me ramener à toi. Et il m'a dit, ben, tu n'en as pas besoin, espèce d'idiot. Tu es à la messe tous les dimanches depuis ton enfance, ça ne te suffit pas d'avoir le corps du Christ, etc. Bon, c'est vrai, Seigneur, tu as raison, tu as raison. Question par ici? Oui? Oui.
A fait penser à Job ici. Job qui a des kings et God et ça a eu raison parce qu'il y a des questions de transmettre.
Oui, c'est très paradoxal parce qu'on n'aime pas la souffrance, on n'est pas fait pour ça et Dieu non plus n'aime pas la souffrance. Il n'aime pas le malheur. Et c'est vrai que quand on lit le livre de Job, j'ai oublié de répéter la question. Donc on a l'ivraie et le bon grain et évidemment il y a aussi l'expérience de Job qui à travers la souffrance et les épreuves va finalement rencontrer le bonheur. Alors, c'est cher payé, hein, parce qu'il va perdre en passant ses ânesses, son bétail, ses champs, ses propriétés et même ses enfants. Bon. Mais Dieu va tout lui redonner. Bon, très bien. C'est la souffrance, on ne l'aime pas. Mais effectivement, mystérieusement, j'en parle avec humilité parce que je ne sais pas si moi j'ai vécu la souffrance. Et ceux qui l'ont vécu, bien sûr, on en a tous vécu un petit peu, un petit bout, et parfois des souffrances très grandes intérieures, psychologiques ou physiques. Voilà, on sait tous un petit peu ce que c'est, mais il y en a qui ont vécu de très, 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 très grandes souffrances. Et je ne sais pas s'ils en parlent d'ailleurs. Donc, je ne veux pas faire de théorie, mais c'est un fait, et c'est le fait même central chrétien, puisque c'est celui de la croix. C'est celui de la croix. La souffrance du Christ. Et nous, on arrive, j'ai envie de dire, la bouche en cœur à la Vigile Pascale en disant « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Le gars, il est... Enfin, quand je décris la passion, j'aime beaucoup ça, décrire la passion, parce que je fais une expérience chaque année avec des jeunes différents. Alors, en Martinique, on a une coutume, c'est le seul pays au monde où il y a un plat pour le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, jour de jeûne, nous avons un plat traditionnel en Martinique, comme le cochon à Noël ou la dinde à Noël. Nous, c'est les acras. Encore une fois, les acras d'un peu de tout, de titiri, de morue, de machin, etc. Bon. Donc, le Vendredi Saint, les gens font la queue partout pour acheter des acras, pour manger, manger, manger. Bon. Alors, je rouspète tant et plus en tant qu'évêque. Mais quand même, avec les jeunes qui font une retraite souvent avec les jeunes en Martinique, je leur propose de faire... Donc, de jeûner pendant la journée. Et puis, le soir, on fait une tonne d'acras et on s'assoit et j'éteins la lumière. Tout le monde a des acras à portée de main et on regarde la passion de Jésus-Christ selon Mel Gibson. Et souvent, ce sont les mêmes jeunes qui étaient là il y a 5 ans, qui sont nouveaux. Enfin, le groupe se varie, il y a une vingtaine de jeunes. Et les cérémonières, souvent des grandes cérémonies, les futurs séminaristes, etc. Et on rallume la lumière à la fin du film, 2 heures après, et là, tout le monde pleure. Et on confesse jusqu'à 3 heures du matin. Voilà. Parce que la passion du Christ nous ramène à la souffrance du Christ nous ramène à l'amour. Et effectivement, à la fidélité. Et c'est paradoxal qui nous fera avoir le bonheur parfois. Oui, on disait ça ce matin avec le Père Ranquet, le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques, c'est le vrai bonheur qui ne finira pas. Le dimanche des Rameaux, la joie des Rameaux, elle a duré même pas 4 jours. Et pour nous, en liturgie, elle dure le temps de la procession. Vous savez, le dimanche des Rameaux, on bénit les rameaux, on chante, etc. Ah, s'il y a 2 Africains, 2 Antillais, ils sont toujours en train de danser dans la procession. Gloire à toi, au Christ, notre chef et notre... Ah bon, les Européens sont plus sobres, mais ils bougent un peu les rameaux. Voilà. Donc, on arrive en dansant avec des tambourins, on arrive devant la porte de l'église, si dans votre paroisse, vous avez la chance qu'on fasse une vraie procession. Et puis là, l'église s'ouvre, elle est vide. Et là, on entre tout de suite dans la passion. Et c'est le mystère central de la foi chrétienne. Donc, Job, etc., le mystère de la souffrance. Maintenant, on doit le dire comme ça, on doit le dire aussi que c'est une vérité. Là, parfois, la souffrance est un chemin. N'empêche que la souffrance, elle est scandaleuse. La mort est scandaleuse. Dieu ne veut pas la souffrance. Mais il en est victorieux, quand même. Il y avait une question par là. Comment reconnaître le plan de Dieu et le plan du diable dans ce contexte de la joie? Alors, le diable, justement, bonne question, c'est vraiment un imitateur et il peut imiter. Surtout que la joie, c'est aussi un sentiment. C'est d'abord un sentiment. Et il faut se méfier des sentiments parce que le senti, vous connaissez déjà. Et donc, inspiré des sentiments de joie, je me rappelle cette jeune fille qui était amoureuse, elle veut se marier, ce qui est bien normal, et elle rencontre un garçon qui, voilà, elle me dit, ah, c'est lui, j'en suis certain, je vais prier tous les jours à la cathédrale, quand je sors de là, il est dans mon cœur, c'est lui, la Sainte Vierge m'a dit que c'était lui, il n'y a pas de doute. Je dis, bon, très bien, ben, vous allez venir me voir, et puis on verra. Et je la connaissais très 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 bien depuis presque l'enfance, et elle amène ce garçon, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin objectivement c'était vraiment pas l'homme qu'il lui fallait. Bon, je ne vais pas condamner non plus, mais c'était une erreur. Alors je dis bon voilà, ben je vous marierai pas. Ben, je fais très court parce que je suis pas aussi autoritaire que ça, mais je dis moi je vous marierai pas, je vous empêcherai pas de vous marier si vous trouvez un autre prêtre, mais moi en conscience c'est non. Je lui ai dit pourquoi. Pour telle telle raison, je ne vais pas entrer dans les détails. Ouh, j'en ai pris, hein. On m'a engueulé, les parents de la fille m'ont appelé, on dit, ah, ma fille va vivre dans le péché, si vous ne... J'ai dit, moi, non. Je discerne pas cela, oui. Je discerne pas, ça vient pas de Dieu. Bon, aujourd'hui, elle n'arrête pas de me remercier, hein. Elle me dit, bon, mais ses yeux étaient, elle allait faire l'erreur de sa vie, enfin. Bon. C'est un bon garçon, hein, mais c'était pas ça. Hein. Comme elle m'a dit après, elle m'a dit, je crois que j'étais la femme de sa vie, mais c'était pas l'homme de la mienne, non. Et bon, donc ça arrive qu'on fasse des erreurs de discernement. Donc, en fait, la question que vous posez, c'est celle du discernement. Or, alors ça, je sais que c'est douloureux pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de prêtres aussi, même d'évêques. Parfois, nous n'avons pas d'accompagnement spirituel parce que il y a un discernement. Et ça, là, ça fait partie de la conférence de ce matin. Et la joie que nous avons dans l'Église d'avoir des frères et sœurs, notamment les prêtres qui sont là pour ça, les religieuses, les consacrés, ou des personnes laïques qui ont une vie théologale, c'est-à-dire qui ont une vie suivie et eux-mêmes qui sont accompagnés, qui ont une vie profonde dans la foi et qui peuvent nous accompagner. C'est pas n'importe qui, hein, parce qu'il y en a parfois qui s'érigent en accompagnateurs et qui peuvent devenir des gourous, qui peuvent être des gens un peu... Voilà, personne ne doit s'ériger en accompagnateur. Et tout accompagnateur doit être lui-même envoyé, missionné par l'Église elle-même, donc dans une communauté, par un curé ou par l'évêque, etc. Bon, je referme la parenthèse. Donc, le discernement pour savoir si c'est un fruit de l'esprit ou c'est un fruit de la chair, cette joie, parce que il y a rien qui. C'est pour ça que j'ai fait cet enseignement sur les sept joies, parce que parfois le plaisir imite beaucoup le bonheur. Une accumulation de plaisir, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que le bonheur, c'est une accumulation de plaisir. C'est la pilule blanche de ce matin. C'est quelque chose qui vient comme une antidouleur de ta souffrance, pour venir à... mais non pas comme une guérison de ta souffrance. Et quand vous prenez un médicament, moi, les médicaments, j'arrive pas à les avaler. Je sais pas avaler. Donc, je suis obligé de les mâcher. Donc, je prends un Doliprane ou un truc comme ça, et puis c'est mauvais! Ce sera toujours plus mauvais qu'un caramel. Mais, par contre, le Doliprane me fera beaucoup plus de bien. Enfin, en tout cas, il va. Voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est un médicament ou un antidouleur, mais on va dire que c'est un médicament. Il va me soigner. Alors que le caramel, il va juste m'apporter un peu de plaisir jusqu'à ce qu'il fonde complètement et que je prenne le suivant, juste après. Puis, une fois que le paquet sera terminé, ben, c'est terminé. Donc, la joie qui. La limitation de la joie par la singerie de la joie, et ça marche, hein, parce que le monde tombe dans le piège. Et le Seigneur nous... Alors, l'un des éléments de discernement, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce que je ne vais pas aller très loin, c'est le fait que la joie, je l'ai dit un petit peu ce matin très rapidement, le bonheur qui est durable et qui vient de Dieu, c'est un bonheur qui demande un effort. Il n'est pas évident, c'est un chemin escarpé. C'est pas... Comme on dit en Martinique, râler chaise botable. Il n'y a pas de Martiniquais parmi nous. Râler chaise botable, ça veut dire que tu n'as rien d'autre à faire que de mettre les pieds sous la table dans ta vie. Tu viens manger, tout est prêt pour toi. Voilà. Donc tu as juste à tirer la chaise, à râler la chaise près de la table et tu mets les pieds sous la table. Voilà. C'est le seul effort que tu as à faire. Alors le vrai bonheur qui est durable, il demande un effort. Et ça, c'est un discernement. Si c'est trop facile, on commence à discerner. Est-ce que ça vient de Dieu? Voilà. Il y avait une question par là et ensuite là-haut. D'accord. Les deux dernières joies. Alors, la dernière, c'est la béatitude, elle est au ciel. Parce que sur terre, on n'atteint pas ce bonheur de ne plus rien avoir. On a toujours quelque chose. On a la santé. Mon vieux vicaire de paroisse, le père Mao hurlait dans le micro. On est toujours riche de quelque chose. Alors, ça veut un double sens. Ça veut dire on a toujours une richesse, même les personnes qui se croient nulles. Mais ça veut dire aussi on a toujours quelque chose à laquelle on s'agrippe, pardon. Vous voyez, on est toujours riche. La richesse du Christ qui dit malheureux les riches. On a toujours quelque chose. Donc en ce monde, même le religieux l'ermite le plus isolé qui vit dans le dénuement le plus total, il y a quelque chose auquel il est attaché. Donc il y a toujours une richesse. Abba Maker, je crois, un des pères du désert, dit qu'il a vu une fois dans sa vie de vrais moines. Il est parti très très loin dans le désert. Il a vu une île et sur cette île, il a vu deux hommes qui vivaient nus. De nos jours, c'est un peu louche, hein, mais à l'époque, pas du tout. Et malgré la chaleur et les bêtes sauvages et les serpents et tout, ils étaient dépouillés de tout. Et il a dit, là, ce sont de vrais moines. Parce qu'ils n'ont qu'une seule chose, c'est Dieu dans leur vie. Voilà. Alors que lui, même moine respectable, il voulait montrer par là que, ben, il avait encore une tenue, même en peau de bête. Et même s'il mangeait un pain tous les 6 mois, c'est ce que je fais aussi, mais... Lui, il mangeait que le pain. Moi, il n'y a pas que le pain. Voilà, il n'était pas encore moine, il n'avait pas encore le détachement complet. Il n'était pas encore moine. Donc ça, c'est la béatitude, ce n'est qu'au ciel. Et puis, il y a ce bonheur, cette jubilation, j'appelle ça la jubilation, d'avoir tout donné. Jubiler, crier de joie, vous voyez. Hein, le bonheur, c'est le bonheur d'aimer, mais la jubilation, c'est d'avoir tout donné. C'est-à-dire, vous êtes là le soir, vous dites, j'ai tout donné, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai donné tout à ceux que j'aimais. J'ai donné tout. Et je ne suis qu'amour de mon mieux. Pour résumer pour la radio, c'est pas une question, c'est un témoignage, mais qui éveille beaucoup de réflexion de ma part, enfin, ou plutôt une réflexion très simple. À travers l'expérience d'une séparation, d'une épouse qui s'en va, tu fais l'expérience de Dieu qui te donne la grâce du pardon, et plus encore, comme dit la parole de Dieu, cherchez d'abord le royaume, et tout vous sera donné par surcroît. Alors, ce qui est un peu la réflexion que ça m'inspire, c'est j'ai envie de dire pourquoi toi ? C'est ça la question. Est-ce que tu étais un meilleur homme que les autres ? Est-ce qu'il y avait une condition psychologique ? C'est ça en fait, parce que souvent, moi j'ai vécu une chose assez difficile dans ma vie d'évêque récente, ça ne m'était jamais arrivé avant, pour faire très court, du harcèlement, etc., et de la calomnie très violente. Et alors de fait, là aussi, par pure grâce, j'ai complètement pardonné. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir des ressentiments contre la personne. Par contre, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement déstabilisant. On se tourne vers Dieu, on dit, mais on aimerait bien avoir une petite grâce mystique de joie surnaturelle. Ouais, ben, bravo, hein. Oui, je sais, mais je suis jaloux quand même. Et on se dit à Dieu, mais pourquoi d'autres ont cette grâce-là? Et peut-être ton témoignage, certains dans l'assemblée se disent, mais pourquoi moi, j'ai pas eu ça? J'ai encore le cœur, j'ai encore des ressentiments, j'ai encore des poids, etc. Et là, il y a un mystère, qui ne se résout pas, mais qui se traverse. Il y a un désert qu'il faut traverser. Comme Israël, qui sort d'Égypte, qui doit renoncer aux oignons d'Égypte et qui doit aller vers la terre promise. Il y a une promesse, en fait. Toi, tu as eu la chance, comme la Vierge Marie. La chance, la grâce, pour pouvoir en témoigner, certainement. Pas parce que tu es mieux que les autres, mais le Seigneur t'a choisi, comme quand il y a un miracle. Moi, j'ai rencontré des miraculés de Lourdes qui comprennent rien de leur miracle. Ils disent, mais pourquoi moi? Je comprends rien. Il y a une dame qui supportait pas le renouveau charismatique. Elle critiquait tout le temps. Or, une de ses amies vient à la session des Béatitudes. Ça se passe il y a 30 ans, ou 25 ans. Et un soir, il y a une assemblée de prière. Mais l'autre n'a pas envie de sortir seul de son hôtel le soir. Donc elle lui dit, ben viens avec moi. Il dit, ah, j'aime pas ce genre de choses. Viens, alors elle vient. Et pendant toute l'assemblée, donc elles sont un peu dans le fond, et celles qui n'aiment pas le renouveau, les prières, n'arrêtent pas de critiquer. Dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils lèvent la main, mais tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dévisser des ampoules, d'essuyer des néons, mais n'importe quoi. On fait pas ça dans l'église, etc. Et puis, donc, celles qui aiment bien le renouveau, là, elle se dit dans son cœur, mais pourquoi je l'ai amené avec moi? Mais pourquoi? Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que l'autre ne parle plus. Elle ne dit plus rien. Elle se tourne vers elle et l'autre est comme ça. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas entendu? Non. Elle dit, ben, Je comprends rien. T'as pas entendu ce que le monsieur a dit? Il a dit qu'il y a une dame qui a fait un accident de voiture il y a 6 mois, et depuis cet accident, elle a des acouphènes, et que le Seigneur est en train de la guérir. Et là, je n'ai plus mes acouphènes, et j'ai fait un accident de voiture il y a 6 mois. Enfin, l'autre était au courant. Et effectivement, elle est guérie, complètement. Plus d'acouphènes. Mais pourquoi elle? C'est pas juste, elle était en train de se péter. Et non seulement l'autre pourrait dire, mais pourquoi c'est elle qui est guérie alors que moi je suis à fond, quoi. Mais elle aussi, celle qui est guérie, elle est revenue. Hein, je la connaissais bien, les deux, je les connaissais bien. Elle est revenue, elle vient de me parler, elle me dit, mais pourquoi moi? Elle était bouleversée, Dieu m'a touché, moi. Il y a une parole de connaissance pour moi. Et ça, c'est un peu, il ne faut pas évidemment avoir de la jalousie, hein. C'est une vraie question, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse pour tous à travers cela. Dans un groupe de jeunes, je dis souvent, s'il n'y a pas de vocation parmi vous, s'il n'y a pas un garçon qui veut être prêtre, une fille qui veut être consacrée religieuse, ça veut dire que, par contre, quand il y en a un, au moins un, sinon deux ou trois, ça veut dire que c'est vraiment tout le groupe qui manifeste la vie de la grâce. Ça ne veut pas dire que ce garçon dans cette fille-là est mieux que les autres. Mais ça veut dire que Dieu est tellement fort que même ceux qui se marient, eux aussi, pas même ceux, justement, eux, a fortiori, ceux qui se marient ou qui choisissent un célibat non consacré, que sais-je, suivent Jésus. Donc, le pardon que Dieu t'a donné, ça veut dire qu'il est capable de le donner à chacun et qu'il est promis à tous ceux, peut-être à travers une traversée du désert, peut-être à travers une lutte pour retomber sur ses pattes, un chemin, mais il insigne pour tous ceux qui vivent dans l'amertume ou la rancune ou la blessure de dire « Dieu peut te guérir ». C'est exactement ce que Dieu fait avec la Vierge Marie. Le signe de Marie, c'est quoi? Pourquoi on dit que Marie est le modèle de l'Église? Elle est le modèle, on peut dire la patronne de l'Église. Vous êtes couturière, certaines d'entre vous savent ce que c'est qu'un patron. Hein, on découpe un morceau de plastique ou de papier, et après on découpe le tissu et on fait tous les habits à partir de ce patron. Eh bien, Marie, la joie que Dieu donne à Marie, « Réjouis-toi, fille de Sion », eh bien, cette joie-là, elle nous est promise. La grâce qu'il te donne d'un pardon déjà donné, malgré le mépris violent que tu as reçu, eh bien, cette joie-là, elle est surnaturelle et elle est un signe pour toute l'Église. Et ça s'appelle aussi la communion des saints. La communion des saints. Quand cette fille est guérie de ses acouphènes, cette dame plutôt, quand il y a des guérisons parmi nous, c'est un peu ce qu'a redécouvert aussi le renouveau charismatique, les communautés nouvelles. La guérison des uns, c'est un signe que Dieu est là. Il est là pour tous, mais il donne à chacun une grâce, pas forcément la même. Voilà. On a le temps pour une dernière question? Vous êtes plus forts que moi, les enfants, ça va pas. Donc notre frère dit que la définition du bonheur qu'il avait reçu, c'est la pleine satisfaction de la conscience. Or, que nous, on a défini le bonheur comme le fait de se donner entièrement. Donc, quel est le lien? Pourquoi pour l'être humain? Si je n'ai pas compris, tu me fais signe. Hein. L'être humain, la pleine satisfaction de sa conscience, c'est dans le don de soi. Et il ajoute, ce qui était déjà ma réponse, et que je vais renforcer, est-ce que c'est par imitation de notre Créateur? Voilà. Et la deuxième question, est-ce que en quoi le péché vient entraver, finalement, le don de soi. Alors, tout ça est très juste. Effectivement, il y a quelque chose d'assez sublime à contempler, mais on peut le contempler en regardant un beau coucher de soleil, ou des montagnes enneigées, ou au contraire, ça dépend de qui vous êtes, mais un crapaud tout baveux, etc. Hein, ou un ravet. Imaginez un animal que vous n'aimez pas, un cafard. Bon. Quand vous regardez un beau coucher de soleil, mais pourquoi ça vous fait un tel plaisir? Pourquoi l'harmonie de la nature vous rend si heureux? Ou des montagnes, etc. Pourquoi ces paysages, on aurait pu être dégoûté, comme quand on regarde le crapaud ou un crapaud écrasé sur le bord de la route. Vous voyez, c'est dégueulasse, vous voyez. Pourquoi d'un côté, ça, c'est universel? Pourquoi nous sommes faits pour le beau? Parce que nous sommes faits pour le beau. Vous connaissez la phrase de Saint-Augustin, il faut la connaître par cœur, elle mériterait d'être dans l'Écriture. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Donc nous sommes faits pour l'harmonie. Et quand je dis « nous », ce n'est pas les chrétiens seulement, c'est tout homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc ce n'est que dans l'harmonie, dans la beauté, dans la vérité, qu'il est heureux. On ne peut pas inventer une société où des hommes seraient heureux dans le mensonge. Et même les menteurs ont besoin de la vérité pour mentir. puisque ça ne marcherait pas. Donc, effectivement, c'est la révélation profonde, le fait que se donner, donc l'amour, soit le lieu de notre plus grand bonheur, c'est la révélation anthropologique par l'expérience qui n'est pas là. Mais il y a deux types de vérités. Il y a des vérités qui sont révélées par la Sainte Écriture, par les prophètes, par les apôtres, puis il y a des vérités qui sont de l'ordre de l'observation de l'être humain qui observe. Bon, ben, voilà une façon d'observer que nous sommes faits à l'image, d'abord que nous avons un unique créateur, c'est de constater que l'homme n'est heureux, l'homme n'est humain, c'est d'ailleurs pour ça que la loi qui sera votée dans quelques jours est vraiment diabolique, parce qu'elle va à l'encontre de cette donnée-là qui est une observation, que l'homme n'est heureux que dans le don de soi. C'est en donnant qu'on est heureux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, on le disait. Et donc, c'est parce que, effectivement, c'est bizarre, c'est pas dans l'égoïsme. Et notre monde est extraordinaire, puisqu'il a expérimenté tout ce qu'il faut comme égoïsme pour être heureux et tout, et il n'est pas heureux. Et il n'est pas heureux. Et une mère Teresa, pour donner un exemple plus récent, etc., est beaucoup plus heureuse que le plus grand des milliardaires, et même les milliardaires aujourd'hui découvrent qu'ils ont tellement de milliards qu'ils cherchent du bonheur, et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils donnent. Ils donnent. Par altruisme, mais même ils donnent par égoïsme, c'est-à-dire pour trouver le bonheur de donner. Le bonheur de donner, vous voyez, ça montre. Ben voilà. Maintenant, le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est toujours le choix de mon programme par rapport au programme de Dieu. C'est toujours un veau d'or. Hein, tout péché est un veau d'or. Tout péché est un acte d'orgueil. Tout péché est un moment où je regarde Dieu dans les yeux, alors avec plus ou moins de conscience, ce qui change entre le péché véniel et le péché mortel, parce que le péché véniel, je n'ai pas totalement conscience, et puis c'est pas bien grave. Mais c'est quand même un péché qui blesse ma relation avec Dieu. Le péché mortel, c'est quand j'ai pleinement conscience et que c'est grave. Le péché, c'est toujours le moment où je dis à Dieu, je refuse ma condition de créateur, je fais comme Adam et Ève, j'écoute le serpent qui me dit, vous serez comme des dieux. Je choisis mon propre programme. C'est pour ça que dans l'Évangile, les deux plus grands pécheurs de l'Évangile, c'est le jeune homme riche, qui n'a commis aucun péché, mais qui a choisi son programme plutôt que ce que Dieu lui demandait. Et il s'en alla tout triste. Bon, il y a Judas aussi, mais c'est à peu près la même chose, hein. Et le deuxième, c'est le grand frère, c'est une parabole, mais c'est le grand frère du fils prodigue. Lui, il n'a pas pris l'argent de son papa, il n'a pas méprisé son père, il n'est pas allé dépenser cet argent, en plus avec des femmes, si un truc inutile, enfin, je parle pas des femmes, je parle de ce qu'il faisait avec cet argent. Non mais oh, quand même, bon. Non mais c'est vrai, il aurait investi, je sais pas, il aurait acheté des hamburgers par exemple, je comprendrais. Donc cet idiot, il a pas, le grand frère n'a pas fait tout ça. Il n'a pas fait tout ça. Il n'a rien fait de mal, sauf qu'il a refusé. Il a refusé la miséricorde de son père. Et on a là les deux plus grands pécheurs et les deux exemples du péché de l'ange Satan. Satan, c'est ça, son péché. De refuser la miséricorde du père à la créature humaine. Il dit, ah non, ça, c'est pas possible. Quoi ? Hein ? Qu'une femme, une créature de chair et de sang, soit immaculée conception, qu'elle soit reine du ciel, couronnée dans le... Mais jamais ! Alors la bête, Apocalypse 12, va vomir un fleuve pour envahir la femme et les enfants de la femme, dit Apocalypse 12, 30 quelque chose, les enfants de la femme, c'est-à-dire ceux qui suivent les commandements de Dieu. Donc vous voyez que, effectivement, ta question, c'est le péché, c'est toujours un refus de ce don. Je refuse d'aller jusqu'au bout. Sauf que, je ne suis pas trop compliqué, ce don de Dieu, il est surnaturel. Il y a un don naturel, le plaisir de donner, d'aller aider les pauvres en humanitaire, ou le donner à un sourire à un mendiant qui habite pas loin de chez nous, etc. Vous demandez à tous les partis d'extrême droite à l'extrême gauche, je suis sûr que tout le monde sera d'accord en France pour aller aider les plus pauvres. Sauf que tout le monde va voter pour, enfin pas tout le monde justement, quelques-uns vont voter pour supprimer les plus pauvres, mais par compassion on va vous dire, par compassion, bon. Le don de soi a une petite limite. On veut aider les pauvres. Par contre, à un moment donné, Dieu va nous demander à chacun. C'est comme à la dame avec sa belle-fille. Dieu va demander à chacun d'entre nous de faire un choix surnaturel, un choix qui nous dépasse. Et c'est là que Dieu nous attend. Pas nous attend au sens le radar tourelle qui veut nous flasher, hein. Comme on dit toujours, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un radar sur la route? On passe le radar, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pas moi, je ne fais jamais ça. Mais vous, pauvre laïque. Alors, si Dieu est un radar, on essaie de faire la même chose. Dieu ne nous attend pas au sens où... Mais Dieu nous attend au sens... C'est le moment de notre vie, parfois dans la vieillesse, parfois dans la jeunesse, où il va nous proposer son amitié. Et c'est ce que tu as, ton témoignage, c'est ça. Ta question aussi. Il y a un moment donné où il y a une proposition surnaturelle qui nous dépasse. Parce que je ne sais pas pour vous, mais si votre petit frère est allé prendre l'argent de votre papa et de votre maman, a pris la moitié de l'argent, a vendu les biens, a dépensé tout son argent, il revient. Et même s'il est resté millionnaire, j'en sais rien, il revient à la maison et qu'on l'accueille en lui faisant la fête, en sortant le champagne et le veau d'or, et le veau gras, pardon. Comme disait un prêtre, qui a été le plus triste du retour du fils prodigue? Le veau gras. Et aucun d'entre nous n'aurait accepté. On aurait dit, quoi? Ce petit chenapan qui a pris le fric et tout, tu le récupères la queue avec du champagne? Alors, on n'a pas accepté. Et il y a un moment donné où Dieu nous fait une proposition surnaturelle, d'ailleurs, d'aimer notre ennemi, d'aimer ceux qui ont dit du mal de nous, d'aimer ceux qui nous persécutent, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais pas par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. De donner généreusement à celui qui peut-être nous a trahis. On dit, mais tu vas te faire avoir. Non, je ne me fais pas avoir. Jésus ne se fait pas avoir en étant sur la croix. Il rentre dans sa passion volontaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Bonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.